Vous écoutez, on lit pour vous.
Seul. Une chronique de Jean-François Lisée, parue le 9 août 2023 dans Le Devoir. Passons aux choses sérieuses. Nous sommes seuls dans l'univers. Je sais, j'ai tenté de vous convaincre exactement du contraire il y a 18 mois, les visiteurs. Le Pentagone avait révélé au New York Times, entre autres, que les phénomènes inexpliqués étaient nombreux et issus de technologies inexistantes sur Terre. Fin juillet, un expert a dit sous serment au Congrès qu'il connaissait des gens qui avaient travaillé sur des débris venus d'ailleurs. Mais on n'a pas pu entendre ces gens ou voir les débris. Ce n'est pas la première fois que des gens crédibles font ce genre d'affirmation. Presque chaque fois, des informations supplémentaires jettent un doute sur ces récits. Voir à ce sujet, notamment, la série documentaire de J.J. Abrams, UFO, sur Crave. On en sort dans un état de grande perplexité. Un récent rapport de la NASA tente aussi de nous convaincre que les phénomènes inexpliqués sont en réalité peu nombreux et qu'ils deviendront compréhensibles lorsqu'on raffinera nos techniques de surveillance, ce qui est en cours. Puisque les entrelacs de vérité et de désinformation semblent intrinsèques au dossier de ce que je continuerai à appeler des ovnis, l'argument le plus prégnant pour soutenir la thèse de l'existence de vie intelligente ailleurs que chez nous est statistique. Il y a des milliards de planètes tournant autour de milliards de soleils dans des milliards de galaxies. Il serait donc simplement mathématiquement certain que, quelque part, des conditions semblables à celles qui ont permis l'émergence de l'intelligence sur Terre se soient reproduites. Des formules mathématiques célèbres tentent de cerner le phénomène. L'équation de Drake, notamment, offre une méthode qui, à mesure que notre connaissance de l'univers progresse, devrait permettre de faire cette évaluation. À l'Institut américain SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, une centaine de scientifiques travaillent à temps plein sur chacune des variables de cette équation et sur des méthodes d'identification de signaux venus d'autres mondes. C'est du sérieux. S'il est donc facile de trouver des mathématiciens, des astronomes et des astrophysiciens qui défendent cette logique, les biologistes, surtout les spécialistes de l'évolution des espèces, la trouvent très drôle. Ce n'est pas un signe d'intelligence de croire à des signes d'intelligence extraterrestre, disait notamment Francisco Ayala, expert américain dans son domaine, décédé plus tôt cette année. Celui qui comprend l'évolution se rend compte que peu importe le nombre de milliards, de milliards, de milliards, de milliards de planètes, ajoutait-il, la probabilité que la vie intelligente se soit produite est si insignifiante qu'elle ne pourrait plus jamais se reproduire. C'est que, selon eux, la série d'événements qui se sont succédés sur Terre, depuis l'apparition de l'amibe jusqu'au développement de cerveaux intelligents, est tellement extraordinairement improbable qu'aucun nombre de planètes dans l'univers ne peut arriver à la cheville de ce niveau statistique. C'était aussi l'opinion de Stephen Hawking, pourtant astrophysicien. On peut s'attendre à trouver beaucoup d'autres formes de vie dans la galaxie, mais c'est très improbable que nous trouvions de la vie intelligente. Ce qui n'empêchait pas de trouver très imprudent de faire connaître notre position à ces improbables extraterrestres. Car s'ils existent et nous trouvent, c'est que leur technologie est supérieure à la nôtre. Ce qui est embêtant, puisque rien ne dit qu'ils seront bienveillants. Le second raisonnement des négationnistes de l'existence d'extraterrestres noircit encore le portrait. Le développement de la vie, sur Terre ou ailleurs, ne culmine pas par l'intelligence, explique-t-il. Sinon, tous les organismes finiraient par venir bavarder avec nous. Or, leur motivation première est de s'adapter à leur environnement et de se reproduire. Même si nous sommes désormais 8 milliards, nous sommes loin d'être l'espèce ou l'organisme qui se reproduit le plus ou le mieux. Même notre génome n'est pas le plus complexe sur Terre. Nous possédons environ 23 000 gènes. Nous sommes battus par une puce. Oui, la puce d'eau douce, Daphnia pulex, en a près de 31 000. On ne peut même pas se rabattre sur le nombre de paires de bases dans l'ADN, une bonne mesure de complexité. Nous en avons 3,1 milliards, ce qui paraît beaucoup. Une fleur appelée Paris japonica, que l'on trouve sur les montagnes du Japon, en a 50 fois plus. Le psychologue évolutionniste Steven Pinker résume la chose ainsi. L'évolution concerne les fins, pas les moyens. Devenir intelligent n'est qu'une option. Ce n'est donc même pas une conséquence de la complexité. Même dans un milliard d'années, la Paris japonica n'aura pas inventé le tournevis. J'avoue que mon apprentissage tardif de cette vision des choses, je suis tombé déçu en écoutant une vidéo de l'excellente série scientifique Closer to Truth, disponible sur YouTube, ne me réjouit nullement. À l'heure où on s'éveille aux conséquences néfastes pour la santé mentale, de l'isolement et de la solitude, il serait plus réconfortant de se faire dire que nous avons des centaines de cousins inconnus dans le cosmos. Même si certains d'entre eux ont la gâchette un peu facile sur le rayon laser. C'était « Seul », une chronique de Jean-François Lisée, parue le 9 août 2023 dans Le Devoir.
Pape François et l'éloge de la pauvreté, un texte de Pierre Desjardins paru le 24 avril 2025 dans Le Devoir. Le pape des pauvres est décédé. Peut-on faire un bilan vraiment positif de son pontificat? Contrairement à ses fans, permettez-moi d'en douter, car avec lui, les grands débats de société tels l'accès de la femme à la prêtrise, l'avortement, la contraception ou la question du célibat des prêtres ont été mis sur la glace. Évidemment, on comprendra que ce n'est pas en parcourant les bidonvilles de Buenos Aires où ni l'homme ni la femme n'avaient un véritable travail que la question de la place de la femme apparaissait prioritaire au futur pape. En recentrant toute l'action de l'Église catholique sur la charité envers les démunis, le pape François disait vouloir mieux répondre au message premier du Christ qui en aurait été un de partage et d'amour. Mais est-ce vraiment le cas? Posons la question. Si en 2025 le Christ revenait sur Terre, quel pourrait bien être, en extrapolant à partir des événements de sa vie, son message? Serait-il favorable à une institutionnalisation de la misère et de la pauvreté? Rappelons qu'en 1976, alors qu'il était le supérieur de l'ordre des Jésuites en Argentine, le futur pape François ne s'est pas opposé de quelque façon que ce soit à l'oppression que menait la dictature militaire, et cela jusqu'en 1983. Il s'est plutôt rangé du côté conservateur de l'Église qui plaidait en faveur d'un soutien aux pauvres, mais sans plus. Il critiquait plutôt alors les partisans de la théologie de la libération, partisans nés d'un mouvement gauchiste au sein de l'Église catholique d'Amérique du Sud. Celui-ci prônait des actions politiques concrètes afin de libérer les populations de leur pauvreté chronique. On comprendra que dans le contexte d'alors, leurs membres étaient la proie des autorités politiques en place qui n'hésitaient pas à les éliminer et à les torturer à mort. L'archevêque de San Salvador, Mgr Oscar Romero, fut même assassiné en pleine messe en 1980 pour avoir défendu cette cause. En tout, c'est plus de 50 prêtres d'Amérique du Sud qui furent attaqués ou menacés. Misère. Si, pour la forme, il a effectivement aidé les pauvres de l'Argentine en les encourageant et en leur faisant la charité, qu'a-t-il fait sur le fond pour les sortir de leur misère? A-t-il intercédé pour eux auprès des autorités? Les a-t-il, par exemple, instruits et renseignés sur la contraception et les aléas des grosses familles? Ou ne s'est-il pas plutôt contenté de leur donner un chapelet pour prier en silence? Sans en faire un débat politique, chose à laquelle l'Église catholique s'est toujours officiellement opposée, il reste que la pauvreté a des causes profondes et que refuser de les voir ne répond pas au message du Christ. Souvenons-nous des sorties de Jésus-Christ dans l'Évangile. Que ce soit contre les vendeurs du temple ou contre les pharisiens, jamais il n'a affecté quelque complaisance que ce soit envers l'inégalité institutionnalisée. Au contraire, à chaque fois, il s'est rebellé contre ceux qui prétendaient au pouvoir religieux ou politique en gardant le peuple ignorant et asservi. Le Christ était de ceux qui ne se gênaient pas pour élever la voix, et il prêchait ouvertement non pas avec, mais contre les pouvoirs en place. Oublier cela, c'est faire fi du message du Christ qui n'était pas celui d'une compassion aveugle et consentante envers les pauvres, mais d'une compassion active et en révolte contre les injustices. Progrès. D'ailleurs, lorsqu'au XIIIe siècle, François d'Assise prit la décision de vivre dans le dénuement, ce n'était pas pour cautionner l'ordre des franciscains qu'il venait de fonder, mais d'abord et avant tout pour suivre en toute humilité et simplicité la vie de partage enseignée par le Christ. Or, en se vautrant dans une pauvreté institutionnalisée, le futur pape Jorge Mario Bergoglio n'a-t-il pas refusé à ses ouailles le partage des connaissances qu'il avait en matière de progrès humain? De plus, en fermant systématiquement le débat sur le célibat des prêtres, le pape n'a-t-il pas exposé des enfants démunis du globe à d'éventuels sévices sexuels commis par des prêtres brimés dans leur sexualité? Et lorsque, de plus, l'on ne défend pas le droit des femmes à l'égalité complète avec les hommes, ne les empêche-t-on pas sciemment de se sortir du trou? Et pour ce qui est des homosexuels, à part de belles paroles lancées en l'air lors d'un voyage, qu'a fait concrètement par la suite François pour les reconnaître, pardonner leurs péchés et les bénir? Qui a dit que les grands débats de société ne sont que pour les riches? Le Christ? Sûrement pas. Ces débats touchent aussi bien les pauvres que les riches. Les mettre de côté en prétendant vouloir prioritairement venir en aide aux pauvres, comme l'a fait tout au long de son pontificat le pape François, est très discutable. Que le pape François se soit soucié des pauvres est une chose, mais qu'il ait tout au long de son pontificat priorisé cette cause au point d'en oublier d'autres tout aussi importantes en est une autre. C'était « Le pape François et l'éloge de la pauvreté », un texte de Pierre Desjardins paru le 24 avril 2025 dans Le Devoir.
Littérature fantastique. Un texte d'Abigaël Leblanc paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. Du haut de mes 12 ans, la série de livres Elle d'Apriline Pike, ADA, paru en 2009, était le summum des œuvres fantastiques puisqu'il me laissait envisager que je pouvais être quelqu'un d'autre dans un univers merveilleux. De nos jours, cette littérature nous offre davantage grâce à ses transformations au fil du temps, en plus de gagner en popularité grâce à BookTok et à Bookstagram. En comparant cette série avec ce qui a été publié dans les dernières années, je réalise à quel point ces créations ont grandi à nos côtés. Désormais, elles possèdent une plus grande part de diversité et d'inclusion dans leurs thèmes et en ce qui concerne les héroïnes. Le désir de fuir ou de rester. Laurel, protagoniste de la série Elle, est une jeune fille qui s'apprête à vivre quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel et d'effrayant lorsque des pétales poussent dans son dos pour lui créer des ailes. Cette découverte perturbante n'est que la première parmi tant d'autres, et son introduction au milieu des fées se fait grâce à Tammany, qui provient de cet environnement enchanté. Rapidement, on réalise que Laurel est elle-même une fée et que sa place n'est pas dans le peuple des humains, qu'on lui réserve un sort bien plus grand. À l'époque, c'était ce que ces sagas nous offraient, la chance de rêver à ce jour où nous découvririons notre vraie nature en tant qu'êtres fantastiques et où nous pourrions explorer des contrées occultes. Plus récemment, Holly Black, avec sa trilogie « Le prince cruel », Rajo, nous suggère le message inverse. Jude et sa sœur jumelle vivent dans notre société, celle de leur mère, jusqu'à leurs 7 ans, l'âge auquel leur père, originaire de Terra Fea, les emmène vivre avec lui. Malgré le temps passé dans la sphère des Faes, Jude devra redoubler d'efforts si elle persiste à vouloir faire sa place à Terra Fea, et ce, en vivant du harcèlement et en risquant d'être envoûté par les Faes. On remarque le contraste entre les motivations de Laurel et de Jude. En suivant Laurel, on aspire à changer pour s'évader. Jude nous propose plutôt de se battre pour ses convictions et de faire soi-même sa place, que l'on soit la bienvenue ou non. Acceptation et confiance. Le renouveau dans ces épopées fabuleuses facilite l'identification aux personnages. Au lieu d'avoir des pouvoirs comme Laurel, on trouve de plus en plus d'humains sans capacité magique. Cela nous donne la possibilité de nous sentir représentés et entendus dans ces scénarios qui promeuvent l'acceptation de soi. D'ailleurs, la dédicace à toutes les filles qui se sont trouvées à travers les livres de Margaret Rogerson dans « Sorcery of Thorns », Castlemore, en est un parfait exemple. L'autrice se fait ainsi l'écho de cette nouvelle ère fantastique qui nous prouve que pour réussir, nous n'avons pas besoin de magie ou de dépendre des autres. Dans ce roman, on rencontre Élisabeth, une apprentie libraire de 16 ans. Son métier est périlleux puisqu'elle doit être en contact avec des grimoires mystérieux pour s'assurer qu'ils ne peuvent pas causer de mal. Malheureusement, elle doit se lancer dans un combat contre des forces maléfiques après être accusée de l'irréparable. Le cheminement de Laurel de la série Elle et celui d'Élisabeth sont donc bien distincts. Laurel a la chance de changer avant de découvrir ses ailes. En plus de se fier à l'aide constante de Tanemi, alors qu'Élisabeth est une adolescente ordinaire, qui s'assume, qui essaie de sauver le monde en se tournant vers les connaissances que les livres lui apportent. Représentation et féminisme. Valorisant l'acceptation de soi, ces synopsis mettent de côté le stéréotype de la demoiselle en détresse, ce qui est très représentatif de Laurel, qui avait besoin d'aide afin d'avancer. Désormais, on s'inspire de personnages aux motivations hors normes, qui désirent obtenir un titre ou tout simplement emprunter une voie qui leur est interdite. Le récit de Jude en est le parfait exemple, puisque l'adolescente acharnée souhaite faire sa place à Terra Fea, malgré les dangers, tout en rêvant de devenir chevalière. La trilogie Ash Princess, écrite par Laura Sebastian, Albin Michel et le livre de poche, présente un phénomène similaire. Le roman est axé sur la princesse Théodosia, qui a assisté à la colonisation de son royaume par le Kaiser. Une dizaine d'années ont passé depuis ces tragiques événements, et pourtant, les Kalovaxiens, ayant mené à la destruction de ses vies, lui rappelle la chance qu'elle a d'être toujours vivante. Il s'agit, bien sûr, d'un faux privilège, puisqu'on l'utilise comme un symbole de soumission et de répression. La princesse des cendres fera donc tout ce qu'elle peut afin de restaurer son royaume. Certains personnages, comme son amie Crescentia, nous surprendront à leur tour en montrant à quel point il peut être dangereux de sous-estimer ceux qui nous entourent. Finalement, la série Elle demeure surtout à la surface des personnages et de leurs capacités, contrairement à Théodosia et à Crescentia, qui usent de ruses afin d'obtenir ce qu'elles désirent plus que tout. Ce qu'on en retient. En regardant les écrits qui nous ont marqués, force est de constater qu'il y a eu une progression du genre fantastique pour la jeunesse. Il est toujours populaire parce qu'il a su cheminer à nos côtés et nous proposer ce que nous aurions aimé lire à l'époque. Nous y retrouvons désormais des modèles avec une grande profondeur, des aventures avec des sujets complexes et beaucoup de féminisme. Au lieu d'être des accessoires aux protagonistes masculins, des figures comme Jude, Élisabeth et Théodosia font preuve d'une véritable agentivité et nous autorisent à croire en nous. Dans une dizaine d'années, nous pourrons regarder l'évolution de la littérature fantastique afin de voir, à nouveau, le progrès réalisé dans ces histoires qui nous permettent de nous laisser envoûter. C'était « Le renouveau de la littérature fantastique », un texte d'Abigail Leblanc, paru le 3 septembre 2024 dans la revue « Les libraires ».
Une histoire entre vous et nous, un texte de Karine Guillaume, paru le 7 avril 2025 dans Les Libraires. Comme les meilleures histoires commencent dans les librairies indépendantes, cette rubrique raconte la relation privilégiée qu'entretient une libraire avec ses clients. Madame Jeanne, Monsieur Henri, Francine et moi. Madame Jeanne a décidé de m'appeler Francine. J'ai bien essayé de lui répéter mon prénom. Elle s'excuse et la fois suivante m'appelle à nouveau Francine. J'ai cessé de lutter. À choisir, j'aurais probablement élu un autre pseudo de libraire qui me fasse me sentir moins septuagénaire. Mais, ma foi, Madame Jeanne n'est ni arrogante ni perdue dans sa tête. quelque chose en elle est persuadée que je me nomme Francine. Elle est par ailleurs presque trop polie, prend le temps de prévenir si elle ne peut passer chercher le livre qu'elle a réservé, s'excuse à profusion. Elle commande des ouvrages pointus de politique ou de science, indifféremment en français ou en anglais. Toujours très élégante, un carré court si parfait que des fois je me demande si ce n'est pas une perruque. Elle n'est jamais pressée pour rien, sauf si elle vient avec M. Henri. Madame Jeanne est dame de compagnie. En fait, non. Je réalise que j'ignore quel est leur lien. Mais elle a pour lui la déférence des noms intimes, matinée de ce je ne sais quoi de fermeté propre aux aidants professionnels. Monsieur Henri a 90 ans, circule dans un fauteuil poussé donc par Madame Jeanne, qui doit en avoir 65. Au besoin, il se lève et monte péniblement les trois marches pour entrer dans la librairie. Monsieur Henri n'est pas sénile non plus. Tout juste, un peu moins là, certainement. Il regarde droit devant lui, souvent rien de particulier. Il ne dit rien, mais on sent bien que la patience, ce n'est pas sa principale qualité à Monsieur Henri. D'ailleurs, au bout d'un court moment, il annonce invariablement « J'ai faim ». Ce qui tombe bien, car quand Madame Jeanne vient avec lui, c'est vers midi et elle l'emmène jusqu'à un bon restaurant pas loin. J'ai parfois le sentiment d'un accord tacite entre eux. Monsieur Henri tolère le passage à la librairie parce qu'après, yalla, c'est festin. Chaque fois, je veux les aider à ouvrir la porte et à descendre, mais chaque fois, ils me disent non. Ce duo, pour moi, c'est les irréductibles, les résistants. Ils ne lâchent rien, ni l'un ni l'autre. Madame Jeanne, tirée à quatre épingles, qui pilote un Monsieur Henri, qui se lèvera jusqu'au bout pour descendre un escalier. C'est à la fois beau, digne et triste un peu. Ça vaut bien le coup de s'appeler Francine de temps en temps. C'était Une histoire entre vous et nous, un texte de Karine Guillaume, paru le 7 avril 2025 dans Les Libraires.